dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, des Actes, au chapitre 4, nous allons lire quelques versets. Et pendant que vous cherchez ce chapitre, permettez-moi de vous raconter une histoire. Un petit garçon se promenait avec son chien, un bâtard. Il croise un homme qui lui demande à quelle race appartient son chien. « Oh! » répond le garçon. « C'est un chien policier. » L'homme lui dit, « Eh bien, il ne ressemble pas du tout à un chien policier, ton chien. » Le garçon lui dit, « Eh bien, c'est parce qu'il travaille au sein des services secrets. » Pendant que vous cherchez ce passage, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous un chrétien audacieux ou un chrétien timide et peu sûr de lui? En d'autres mots, si vous étiez arrêté par les autorités parce que vous êtes chrétien, trouverait-on suffisamment de preuves pour vous accuser et pour vous condamner? Est-ce que vos voisins savent que vous êtes chrétien? Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont des chrétiens timides, qui travaillent au sein des services secrets de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas qu'on les voit en train de lire la Bible à l'extérieur de leur demeure. Ils ne veulent pas qu'on les voit rendre grâce à Dieu pour la nourriture qu'ils s'apprêtent à manger lorsqu'ils sont dans un restaurant. Lorsqu'ils ont l'opportunité, ils ne veulent pas témoigner de l'amour que Dieu a manifesté à travers la personne de Jésus-Christ, parce qu'ils ont peur qu'on les déteste, qu'on les juge et qu'on les critique. Ils affirment être chrétiens, mais quelque part, ils sont timides et ils manquent d'assurance. Nous allons regarder aujourd'hui quelques versets au chapitre 4, à partir du verset 13. Et j'aimerais que vous portiez votre attention sur le mot « assurance » qui apparaît dans les versets que je vais lire. Au verset 13, il est écrit... Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quelle grâce de savoir que le Seigneur ne nous exige pas de nous d'avoir fait la faculté de théologie, d'avoir fait des études universitaires pour pouvoir témoigner du beau nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Avant de continuer, eh bien, je vous invite à prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce ce matin pour cette parole que tu nous as donnée. Merci aussi, Seigneur, parce que tu t'es révélé dans nos vies. Parce que, Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité et, Seigneur, tu agis dans nos cœurs. Et ce matin encore, Seigneur, ce n'est pas un tête-à-tête que tu veux avec nous, mais c'est un cœur à cœur. Parce que c'est à nos cœurs que tu veux t'adresser. C'est à travers nos cœurs, Seigneur, que tu veux faire un ménage, que tu veux aussi déverser, Seigneur, ta parole qui fortifie, Seigneur, qui purifie, qui nous fait progresser dans notre foi et dans notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est en son nom ce matin que je te demande, Seigneur, de nous parler à tous et chacun ici présents. Nous avons tous besoin, Seigneur, d'entendre l'Esprit parler, Seigneur, à son Église ce matin, afin que nous puissions, Seigneur, sortir grandis. Et aussi avec la certitude, Seigneur, que tu nous auras tous accordé une part de bénédiction à chacun d'entre nous. Merci encore une fois, Seigneur, pour ton amour. Merci aussi, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Et bénis, Seigneur, ta parole ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Lisons ensemble le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est la deuxième fois que le mot « assurance » est utilisé dans ce chapitre. Premièrement au verset 13, deuxièmement au verset 29, et ici troisièmement au verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Frères et sœurs, à trois reprises, Luc va utiliser le mot « assurance » dans ce chapitre. La première fois, le mot « assurance » est associé avec Dieu le Fils. La deuxième fois, le mot « assurance » est associé avec Dieu le Père. Et la troisième fois, le mot « assurance » est associé avec Dieu le Saint-Esprit. Et dans ce passage, Pierre nous livre le secret de la transformation qui s'est opérée en eux pour qu'ils deviennent des chrétiens sûrs d'eux, le cœur rempli d'assurance lorsqu'ils doivent rendre témoignage de leur foi, et ce, sans être impoli, sans être agressif, sans être légaliste. Et ici, on va regarder dans un premier temps, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend par le mot « assurance » ? Eh bien, le mot « assurance », c'est être sûr de soi dans le grec. C'est avoir le courage de se tenir debout pour le Seigneur Jésus-Christ lorsque les gens s'opposent à nous. Qu'est-il arrivé, ici dans le passage que nous vous avons lu? Je vais répéter les paroles de mon frère Salvatore. Au chapitre 3, eh bien, il y a un homme qui a été guéri. Le texte nous dit au verset 1 qu'il y a un homme boiteux de naissance qui est là, qui se tient à la porte du temple, à l'extérieur de la porte du temple. Et les apôtres l'ont guéri. C'est un homme qui est boiteux de naissance et les apôtres vont guérir cet homme qui se tenait à la porte. Ce pauvre boiteux, finalement, demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'était son travail à tous les jours. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, nous dit le verset 6, il leur demande l'aumône. Et Pierre va lui dire ceci, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » L'homme se leva, nous dit le texte. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il est debout. Frères et sœurs, Dieu venait d'accomplir un miracle à travers ses serviteurs. Mais regardez la suite. Les chefs juifs, les pharisiens, les sadducéens et les scribes détestaient le Seigneur Jésus-Christ. Leur cœur était rempli de venin et ils ne pouvaient pas nier le miracle qui venait de se produire. Mais ils pensaient en eux-mêmes qu'ils pourraient empêcher que le bruit se répande et que les apôtres continuent à prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Frères, les temps n'ont pas changé. Frères et sœurs, c'est encore la même chose aujourd'hui. Dans notre monde dans lequel on vit, on prend tous les moyens pour empêcher les enfants de Dieu de prêcher le beau nom de Jésus-Christ, de rendre témoignage du nom de Jésus-Christ. Et ici, on voit que voyant qu'ils n'étaient pas capables de les arrêter et de les empêcher de parler de Jésus, ils vont faire alors comparaître Pierre et Jean devant eux en leur disant, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Et le texte nous dit ici que Pierre rempli du Saint-Esprit, les versets 5 à 10, hein, au chapitre 4, que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, c'est-à-dire, puisque vous nous interrogez sur une bénédiction que Dieu a déversée sur un homme qui était malade depuis sa naissance, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié cet homme qui a été guéri. » Frères et sœurs, quand vous voyez, vous quittez dans les évangiles de Pierre, c'est un homme qui est abattu. C'est un homme qui est découragé. C'est un homme qui vient de renier trois fois le Seigneur Jésus-Christ. On arrive dans le livre des Actes. Et là, on voit Pierre qui est complètement transformé. Pierre, il n'a plus peur de personne. Pierre, il ne reniera plus jamais Jésus-Christ. Il est appelé à comparaître devant les autorités religieuses pour se défendre. Mais savez-vous quoi? Ce qui nous étonne, c'est plutôt lui qui va porter des accusations et non pas lui qui va recevoir des accusations. C'est par le nom de Jésus-Christ, dit-il au verset 10, chapitre 4, c'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié que cet homme a été guéri. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité des morts qui a fait accomplir ce miracle. Verset 11. « Celui-là même dont l'Écriture affirme être la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale. » Regardez maintenant jusqu'à quel point il est sûr de lui et qu'il n'a peur de personne. Verset 12. « Il dit, le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par lequel ils pourraient être sauvés. » Il n'y a pas de médiatrice entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un médiateur, c'est Jésus-Christ fait homme. Amen. Amen. Si vous dites aux gens aujourd'hui que Jésus-Christ est le seul moyen par lequel vous pouvez être sauvés, vous risquez d'être rejetés, frères et sœurs. Certains vont vous traiter d'arrogant, de sectaire et même d'esprit étroit. Mais ils devront aussi reconnaître que vous êtes un chrétien qui croit que la Bible est la parole de Dieu lorsqu'ils vous entendent dire que le salut ne s'obtient qu'en lui, que Dieu n'a donné aucune personne d'autre par laquelle les hommes peuvent être sauvés. Pierre avait été courageux d'affirmer une telle chose devant les autorités religieuses, dans le sens où il comparait devant eux, devant ceux qui ont condamné ou fait condamner le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il leur dit, « Vous avez crucifié Jésus, vous êtes les coupables, vous avez crucifié Jésus. » Mais Dieu a fait en sorte qu'il devienne la pierre angulaire. Et vous ne pouvez pas être sauvés autrement que par lui. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, le texte nous dit ici, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, c'est-à-dire des hommes simples, des hommes sans instruction. Ils reconnurent que Pierre et Jean avaient été avec Jésus. Frères et sœurs, quel est le fondement de l'assurance des apôtres? Elle est liée avec la Trinité. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin à travers ce passage, parce que ce passage nous révèle comment être un chrétien audacieux, comment être un chrétien qui est sûr de lui dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. C'est le fondement de l'assurance et de l'audace que j'ai dans le Seigneur. Et cela, frères et sœurs, peut devenir le fondement de votre assurance et de votre audace si vous faites partie de ceux qui en manquent ce matin. Et mon message ce matin, c'est un fardeau que Dieu a placé sur mon cœur, c'est que vous puissiez, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau avec cette espérance vivante qui vous anime, avoir l'audace, avoir la certitude, être sûr de vous quand vous pouvez annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, les gens, que votre joie, que vous soyez en mesure de dire « Seigneur Jésus », et vous savez, on va la chercher, cette audace et cette assurance, quand on a compris que ce n'est pas nous qui parlons aux gens, que c'est Jésus-Christ qui parle à travers nous quand on témoigne. Quel fardeau, mes amis, quel fardeau tombe de nos épaules quand on sait que c'est Jésus qui nous demande d'ouvrir la bouche et qui va témoigner à notre place parce qu'il est vivant, parce qu'il habite en nous et qu'il va encore ajouter un grand nombre à son Église. Vous dites amen à ça ce matin? Oui. Il y a trois choses qui peuvent vous amener à être un chrétien qui a le cœur rempli d'assurance et de courage et qui va vous empêcher de vous laisser effrayer par les adversaires de l'Évangile. Et ce monde a besoin de voir des chrétiens dont le cœur est rempli justement de courage et d'assurance. Et la première chose, verset 13, il faut vivre en relation étroite avec le Fils de Dieu. Vivre en relation étroite avec le Fils de Dieu. Lisons encore une fois le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir quoi, frères et sœurs? À quoi les ont-ils reconnus? Regardez la fin de la phrase. Pour avoir été avec le Seigneur Jésus. C'est à ça qu'ils ont reconnu les deux apôtres. C'est-à-dire qu'ils avaient connu personnellement le Fils de Dieu et qu'ils étaient en étroite relation avec lui. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas marcher avec Jésus et dire que vous manquez de courage. Vous ne pouvez pas. Jésus est vivant et il continue à agir sur la terre. Les autorités religieuses demandèrent à Pierre et à Jean de leur expliquer comment cet homme avait été guéri. Il va leur répondre, « Ne nous accusez pas, on n'a rien à voir avec ça, nous. On n'a rien à voir dans cette guérison. Si vous voulez accuser quelqu'un, accusez le Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a guéri. Glorifiez-le, parce que c'est par Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui, dit-il dans le texte, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Frères et sœurs, persévérez dans votre marche avec Jésus. Assurez-vous que Jésus est bien quelqu'un de vivant pour vous. J'aimerais vous dire, et c'est quelque chose qui vient du plus profond de mon cœur, que Jésus-Christ est quelqu'un de vivant pour moi. Plus je parle avec lui, et plus il me confirme que je lui appartiens. Je vis une relation avec lui, je l'aime, et il est quelqu'un qui est toujours vivant pour moi. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai découvert dans un livre quelconque, et puis tout s'est arrêté là. C'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré dans la parole. Je l'ai rencontré de façon personnelle. J'entretiens une relation personnelle avec mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde peut me faire, peu importe ce qu'on peut dire sur moi, je sais que mon Sauveur est vivant. Je sais qu'il me restera fidèle jusqu'à la fin. Je sais que jour après jour, il est celui qui me soutient. Et je sais une chose, que ce qu'il fait pour moi, il veut le faire aussi pour vous. Est-ce que vous êtes en amène à ça ce matin? Personne d'autre ne connaît des choses sur Jésus que ce que nous savons, nous, de lui, en tant que croyants. Jésus-Christ n'est pas là-haut dans le ciel regardant le monde à travers des nuages. Jésus a dit, car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, avez-vous une conviction ce matin que Christ est dans cette salle? Avez-vous une conviction que Christ veut régner dans vos vies? Qu'il veut habiter dans vos cœurs par le Saint-Esprit? Amen! Amen! Jésus est ici ce matin, voilà pourquoi nous pouvons chanter, voilà pourquoi nous pouvons l'adorer, voilà pourquoi nous pouvons le louer. Frères et sœurs, il ne nous a pas laissés seuls. Il est ici avec nous et il a promis qu'il serait avec nous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il nous a faite. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'aime bien la traduction français courant qui dit, et sachez-le, je veux que vous le sachiez, je veux que ça ne soit pas caché, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à ce que je revienne chercher mon Église, je serai avec ceux qui m'appartiennent. Magnifique, ça! C'est magnifique! Vous vous sentez seul? Bien, le diable a réussi à vous avoir, il vous a fait oublier que Jésus est avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il vous rappelle à lui, jusqu'à la fin de votre monde à vous, quand il vous le rappellera, comme il l'a fait avec notre sœur Erna cette semaine. Et frères et sœurs, quand il vous rappellera à lui, vous savez que votre vie n'est pas terminée, qu'elle se poursuit là-haut avec le Seigneur Jésus. Et que, frères et sœurs, ce n'est pas un cabanon ni une remise qui est en train de nous préparer là-haut. C'est une demeure qu'on est incapable de s'imaginer en quoi elle sera faite. Nos yeux vont être émerveillés quand on va voir ce que le Seigneur Jésus est en train de nous préparer. Il ne nous a jamais déçus et il ne nous décevra jamais. Amen. C'est en saisissant pleinement cette promesse que Jésus-Christ est avec nous que cela a changé ma façon de rendre témoignage aux gens. Quand je parle de celui qui a changé ma vie avec les gens, je me dis en moi-même, Jésus, utilise ma bouche pour parler de toi. Et frères et sœurs, rendre témoignage, témoigner, évangéliser, ce n'est pas parler de nous, c'est de laisser parler Jésus à travers nous. Les gens n'ont pas besoin de connaître ma vie, ils ont d'abord besoin de connaître ce que Jésus a fait pour eux. Après, s'il va y avoir des détails, s'ils mettent en doute que du Christ peut transformer des vies, là, je peux amener mon témoignage. Mais les gens ne me reçoivent pas pour entendre parler de moi. Ils me reçoivent pour entendre parler de celui qui m'a transformé, de celui qui peut encore transformer des vies et de celui qui veut encore transformer des vies. Amen. Et lorsque les gens me rejettent, frères et sœurs, ou lorsque les gens rejettent ce que je le dis, je sais que ce n'est pas moi qui me rejette. Et ça m'a enlevé un fardeau énorme, énorme. Quand vous rendez témoignage à la personne de Jésus-Christ et que les gens rejettent le témoignage que vous donnez, frères et sœurs, ce n'est pas vous qu'ils rejettent. C'est Jésus-Christ qu'ils rejettent. Si vous êtes frustré que des gens rejettent ce que vous leur avez dit, c'est parce que vous leur avez parlé de vous et non pas de Jésus. Et vous êtes déçu qu'ils n'aient pas accepté ce que vous leur avait dit vous concernant. Mais si vous leur parlez de Jésus-Christ, s'ils rejettent Jésus-Christ, vous ne serez pas frustrés. Vous allez être animé d'un esprit de tristesse de voir que les gens passent à côté du chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Mais vous ne serez pas frustrés que les gens rejettent le message, rejettent le messager, parce que ce n'était pas votre message, ce n'était pas votre messager, mais c'était Jésus-Christ et l'Évangile qu'ils ont rejeté. Mais si vous parlez de vous, continuellement de vous, et que vous ne réussissez pas à amener les gens à l'Évangile, c'est vous qui allez être frustré. Et vous allez dire, oh, les gens ne comprennent rien, les gens ne veulent rien savoir. Non, vous parlez de Jésus, l'Esprit fait son travail, c'est lui qui convertit. Et quel soulagement après vous en aller, puis vous dites, Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai rendu témoignage, maintenant c'est au Saint-Esprit à prendre le relève, qu'il travaille dans les cœurs. Et il y a une promesse dans les Écritures, dans Isaïe, qui dit que toute parole que vous avez dit, qui vient de la parole de Dieu, eh bien, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir fait son effet dans le cœur de la personne qui l'a entendue. J'espère que vous êtes convaincus de ça, parce que ça nous incite à citer les Écritures quand on rend témoignage aux gens. Frères et sœurs, c'est là où vous commencez à avoir de l'audace et à avoir cette assurance nécessaire en tant que chrétien, quand vous avez la conviction profonde que Jésus-Christ est avec vous, qu'il est à vos côtés et qu'il est en vous. Frères et sœurs, on peut essayer de nous empêcher d'entrer avec une Bible dans certains endroits, mais on ne peut rien faire pour nous empêcher de parler de Jésus, puisqu'il est en nous, puisqu'il est déjà entré en nous. Il n'y a aucun moyen qui existe dans le monde pour empêcher Jésus d'entrer quelque part, tant et aussi longtemps que Jésus vit en nous. Amen. Ouais. Dans ce passage, les autorités sont surpris de l'assurance et de l'audace de Pierre et de Jean. Ils connaissent ces deux hommes. Ils savent que ce sont des hommes du peuple, comme je l'ai dit, sans instruction, qui n'avaient pas fréquenté de faculté, qui n'avaient pas fait de grandes études. Mais le verset 13 nous dit, « Ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. » Et frères et sœurs, votre défi en tant que chrétien, notre défi en tant que chrétien, c'est que quand les gens nous rencontrent, quand les gens nous entendent parler, c'est qu'ils puissent reconnaître que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est notre défi. Est-ce que vous pensez que les chrétiens de l'Église primitive avaient reçu une onction spéciale, avaient reçu une bénédiction spéciale pour abandonner tous leurs biens, pour commencer à témoigner dans les rues, pour se rencontrer à tous les jours? Vous savez ce qui faisait leur assurance? Ils étaient convaincus que Jésus-Christ était non seulement mort pour le péché, mais que Jésus-Christ était ressuscité, que Jésus-Christ était vivant. Et finalement, ils avaient fait une croix sur ce monde. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était d'un toit, c'était des vêtements, c'était de la nourriture. Le reste, ils passaient leur temps à rendre témoignage de la transformation miraculeuse que Jésus-Christ avait fait dans leur vie. Et frères et sœurs, sans porter de jugement, sans condamner personne, je parle à travers de ce qui se passe à travers le monde, l'Église, elle est très, très loin, au 21e siècle, elle est très loin de ce que les chrétiens primitifs, de ce que les chrétiens de l'Église primitive vivaient. Et je ne m'exclus pas dans ça, hein? Je fais partie du lot aussi. Vous savez, on prie souvent pour nos frères qui sont persécutés à travers le monde, qui souffrent, qui risquent leur vie, mais on en subit une grande persécution, nous, ici en Occident. C'est celle de ne pas souffrir suffisamment pour l'Évangile. Je pense que c'est la pire des persécutions. Parce que le diable est en train d'étendre son royaume. Et on est en train de se faire asphyxier. On est en train de tomber dans le coma. L'Église est dans un coma profond. L'Église ne dort pas, elle est dans un coma profond. Moi, jamais je vais signer une pétition pour empêcher une mosquée d'être construite dans le quartier. Jamais. Ça me met au défi en tant que chrétien de dire, « Hey, sors, puis va prêcher l'Évangile aux musulmans. » Ce n'est pas empêcher des mosquées à se faire construire qu'on va empêcher les musulmans de prendre de l'ampleur en Belgique. Si les musulmans et les autres religions prennent de la place en Belgique, c'est parce que les chrétiens, ils dorment. C'est parce que les chrétiens n'osent pas sortir pour prêcher, annoncer l'Évangile, qui vont faire reculer, justement, le royaume du diable. Il n'y a pas d'autre moyen. Lisez l'histoire de l'Église. Lisez l'histoire des réveils. Les Satan, le diable, reculent. Quand l'Église, quand les chrétiens se prennent en main et qu'ils proclament l'Évangile que transformer leur vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Pas facile de dire amen là-dessus, mais c'est un amen quand même. C'est ça. Et je reconnais ma faute, je peux me frapper trois fois la poitrine. Je manque de zèle pour le Seigneur. Première chose, nous devons avoir une relation étroite avec le Seigneur Jésus. Deuxième chose, nous devons avoir confiance en Dieu le Père. J'ai parlé qu'on devait, ça devait former tout, la Trinité. Premièrement, avoir une relation étroite avec Dieu le Fils. Maintenant avoir confiance en Dieu le Père. Versets 24 à 29 du chapitre 4. Alors, il est écrit qu'après avoir été relâchés, Pierre et Jean vont se rendre auprès du groupe de leurs amis. Et ils vont leur raconter tout ce qui leur est arrivé. Maintenant, remarquez la réaction du groupe à partir du verset 24. Quand ils eurent entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Ils s'adressent maintenant à Dieu le Père. Pas à Jésus-Christ, ils s'adressent maintenant à Dieu le Père. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne version. Quand ils eurent entendu ce récit, les croyants maintenant s'adressent à Dieu le Père. « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. » Ça va jusqu'ici, oui? Là, je suis bon, hein? « Par la bouche de notre ancêtre et de ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées avec orgueil? Pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint le Messie. Car il est vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les étrangers et avec les tribus d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils ont ainsi accompli tout ce que, dans ta puissance et ta volonté, tu avais décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, encore une fois ici, le mot assurance, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et je pense qu'à chaque fois qu'on est en présence de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus et qu'on a à cœur de lui témoigner, cette prière des croyants de l'Église primitive, elle devrait ressortir dans notre cœur. Et avant de commencer, on devrait dire, « Seigneur, donne à ton serviteur que je suis, ou si vous voulez, à votre enfant, à cet enfant que je suis, donne-moi la capacité d'annoncer ta parole avec assurance. » Et je vous invite à lire le livre des Actes. Vous allez voir que ce n'est pas une prière qui a été faite pour une fois et terminée. On voit cette prière, le mot assurance, qui apparaît régulièrement. Mais vous savez pourquoi? Comme prière d'exaucement, parce que Dieu a entendu la prière des chrétiens dans Actes chapitre 4. Et il va accomplir toutes sortes de choses en fonction de cette prière qui aurait été annoncée, parce qu'un groupe de chrétiens s'est réuni, parce qu'un groupe de chrétiens a prié en disant, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à tes serviteurs d'annoncer avec puissance, avec assurance, ta parole. » Les autorités religieuses leur ont dit, « Nous vous interdisons de continuer à parler de Jésus. Que vont faire Pierre et Jean? Ils vont se mettre à prier. Et regardez ce qui est intéressant. Ils disent, ils ne diront pas, « Seigneur, donne-nous plus de sécurité. » Non, ils vont dire, « Seigneur, donne-nous encore plus de puissance pour que nous puissions faire exactement ce qu'ils nous ont dit de ne pas faire. » Non seulement ils étaient en étroite relation avec Dieu le Fils, mais ils avaient une pleine confiance en Dieu le Père. Frères et sœurs, lorsque vous analysez les choses dans leur contexte, lorsque vous réalisez réellement qui est Dieu, alors celui qui peut s'agenouiller devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui, parce que la crainte de Dieu, frères et sœurs, parce que la crainte de Dieu, frères et sœurs, chasse toutes les autres craintes que nous pouvons avoir. Si nous avons peur des hommes, c'est parce que nous ne craignons pas Dieu. Mais la crainte de Dieu, frères et sœurs, elle chasse toutes les autres craintes que nous pouvons avoir. Et on va regarder là maintenant pourquoi. Parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Rien n'échappe au regard de Dieu. Frères et sœurs, la crainte de Dieu chasse toutes les autres craintes que nous pouvons avoir. Écoutez jusqu'à quel point Pierre et Jean avaient confiance en Dieu. Lisez le verset 24. « Lorsque les croyants les ont entendus, ils élevèrent la voix, ils élevèrent à Dieu la voix ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ils prient, frères et sœurs, le Dieu qui a fait apparaître les océans, les montagnes et qui a équipé l'univers de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'étoiles. Ils reconnaissent que c'est lui qui a créé tout cela. Frères et sœurs, pourquoi devrions-nous trembler lorsque nous avons un tel Père? Pourquoi devrions-nous être intimidés lorsque le Dieu qui peut accomplir de telles choses est avec nous? Il a parlé, les choses sont apparues. Seul Dieu peut accomplir une telle chose. Que Dieu, frères et sœurs, Dieu est puissant. Pierre et Jean avaient confiance que Dieu était le créateur de toutes choses. Ils étaient convaincus que Dieu était en contrôle de toutes choses. Est-ce que c'est notre conviction ce matin, frères et sœurs? Vous voyez maintenant pourquoi il est important d'examiner les choses dans leur contexte. Regardez le verset 25. Il parle de Dieu le Père. C'est toi qui as dit, Dieu, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre ancêtre et ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées avec orgueil? Pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, le Messie. Est-ce que vous voyez Pierre et Jean qui étaient là debout, devant les autorités religieuses, sûrs d'eux, et qui vont dire au verset 27, « Il est vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont légués dans cette ville avec les étrangers et avec les tribus d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. » Maintenant, regardez au verset 28 ce qu'ils vont dire. Jusqu'à quel point Pierre et Jean connaissent Dieu? Regardez ce qu'ils disent. Ils ont ainsi accompli, c'est-à-dire ceux qui ont fait condamner Jésus, ils ont ainsi accompli tout ce que dans ta puissance, Seigneur, et dans ta volonté, tu avais décidé d'avance. Frères et sœurs, le monde peut faire ce qu'ils veulent. Les autorités peuvent planifier ce qu'ils veulent. Ils ne dérogeront jamais au plan de Dieu. Dieu ne perdra jamais le contrôle de ce qu'il a décidé d'avance, malgré tout ce que le monde peut décider. Le monde, malgré tout, va faire en sorte d'en arriver à ce que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement tel qu'il a prévu depuis toute éternité. Dieu est le Créateur de toutes choses. Et il est celui qui contrôle toutes choses. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané et sur la croix, est-ce que vous pensez que c'était une erreur de parcours? Est-ce que vous pensez que les événements allaient trop vite et que Dieu ne maîtrisait plus la situation? Est-ce que vous pensez que Dieu se promenait de long en large dans le ciel en disant, « Oh non, oh non, oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ils ont crucifié mon fils Jésus! » Non, frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul brin d'herbe qui remue sans que Dieu le veuille. Que tous les cheveux que vous avez sur la tête, Dieu en connaît le nombre. Frères et sœurs, il n'y a rien qui peut être fait sur la terre si Dieu ne le permet pas. Bien-aimés, Dieu ne perd jamais le contrôle. Et Dieu n'a jamais dit face à une situation, « Oups! » Comme s'il était pris par surprise. Jamais. Dieu est toujours en contrôle de toutes choses et cela devrait nous encourager de savoir qu'il est le Créateur aussi de toutes choses. Il contrôle non seulement toutes choses, mais il a remporté la victoire sur toutes choses. Pierre cite ici les paroles que le psalmiste a écrites dans le psaume 2, verset 2, quand il dit que les rois de la terre se sont soulevés, que les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré. Mais au verset 6, le psalmiste ajoute ceci. « C'est moi qui a consacré le roi que j'ai choisi à Sion, ma montagne sainte. » Chers amis, je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et Jésus, un jour, va monter sur son trône dans la Nouvelle Jérusalem. Et frères et sœurs, lisez Apocalypse. Je l'ai dit l'autre jour, hein, je vais aller de ce côté-ci. Quand Jésus va s'asseoir sur le trône dans la Nouvelle Jérusalem, il ne vous regardera pas de loin. Lisez Apocalypse. Il va vous inviter à vous asseoir avec lui sur son trône. Nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ. Et le diable essaye de prendre tous les moyens, parce que nous sommes chrétiens, à nous empêcher pour que Christ règne dans nos vies maintenant. Quel beau leurre! Quel beau séducteur! Alors que, frères et sœurs, on ne peut même pas s'imaginer ce qui nous attend dans la Nouvelle Jérusalem. On ne peut même pas s'imaginer. Il est beau le bâtiment ici. Hein? Il est beau. Hein? Si on le compare avec ce qui nous attend dans le royaume de Dieu, c'est de la boue. C'est ce que Paul disait quand il regardait ce qu'il avait abandonné dans le monde. Hein? Je vois ça maintenant comme étant de la boue par rapport à ce que Christ me donne en espérance. Ce sont belles les briques, frères et sœurs. Mais c'est rien de voir les portes. Une perle sera une porte. Pavé d'or, plus de nid de poule dans le royaume de Dieu. C'est extraordinaire, non? On ne peut pas imaginer. Nous sommes des gagnants, nous sommes des vainqueurs. Et nous sommes comme des vaincus. Le diable nous traite comme des moins que rien. Oubliez les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Rappelez que nous sommes non seulement des enfants de Dieu, mais nous sommes des fils, nous sommes des héritiers
appelés à régner avec Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Et on rajoute après, chapitre 20, 21, que les nations vont rentrer dans la Nouvelle Jérusalem pour venir adorer le Seigneur. Ça, c'est un peu plus difficile à comprendre. Les nations viennent adorer après la Nouvelle Terre et après les Nouveaux Cieux. Ça, c'est pas évident pour les positions théologiques, mais il n'est pas ici de faire de la théologie. Frères et sœurs, nous, on va habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Que vous puissiez, qu'on puisse garder nos yeux. Qu'on puisse garder nos yeux là-dessus, frères et sœurs. Le péché ne peut pas triompher, la foi ne peut pas échouer. Les choses ne vont pas bien dans le monde, mais parce que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Mais l'Église, elle épouse. Et la mariée appartient à l'époux. Et Jésus nous prendra un jour avec lui. Frères et sœurs, Jésus est le roi et la place d'un roi, c'est sur son trône. Et il prendra place un jour sur son trône lorsqu'il reviendra. Satan est un criminel. Et sa place est réservée dans un donjon, nous dit la parole, où il sera envoyé lorsque Jésus-Christ reviendra. Et mon roi, que Dieu a oint, régnera sur Sion, sur sa montagne sainte. Frères et sœurs, vous pouvez avoir l'assurance qu'un jour, Dieu remettra toutes choses entre les mains de Jésus-Christ et que nous habiterons avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Il est impossible que le plan de Dieu échoue. Est-ce là votre conviction ce matin, frères et sœurs? Quel est le fondement de votre assurance? Vous devez vivre en relation étroite avec Dieu le Fils. Vous devez avoir confiance en Dieu le Père. Et lorsque Pierre et Jean fixaient leurs yeux sur les hommes, ils étaient terrifiés. Mais lorsqu'ils ont commencé à fixer leurs yeux sur le Seigneur Jésus, ils étaient pleins d'espérance, pleins d'assurance et sûrs d'eux. Il est écrit dans Proverbes chapitre 29, verset 25, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Ainsi donc, nous sommes appelés à vivre premièrement en étroite relation avec Dieu le Fils. Nous sommes appelés à avoir une pleine confiance en Dieu le Père. Et troisièmement, terminant, eh bien, nous devons nous appuyer sur Dieu le Saint-Esprit qui nous donne le courage dont nous avons besoin pour poursuivre notre pèlerinage terrestre. Versets 29 à 31. Je pense que je me suis trompé. « 29 à 31. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour que des miracles, des prodiges et des guérisons se fassent dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. » Ça, c'est la prière des croyants. Frères et sœurs, est-ce qu'on pense que c'est une prière qui appartient juste aux chrétiens d'Église primitive? Ça fait partie aussi de nos prières. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et étends ta main pour que des miracles, des guérisons et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quelle autorité on donne à Dieu d'agir dans nos vies? Quelle autorité on donne à Dieu d'agir à travers nous? Quelle autorité on permet à Jésus d'encore accomplir des miracles, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Nous avons mentionné en premier lieu Dieu le Fils, nous avons mentionné ensuite Dieu le Père, et maintenant nous mentionnons Dieu le Saint-Esprit, parce que nous trouvons, frères et sœurs, notre assurance dans les trois personnes de la Trinité, un Dieu en trois personnes. Lorsque nous vivons en relation étroite avec Dieu le Fils, lorsque nous avons confiance en Dieu le Père, alors le Saint-Esprit nous donne le courage dont nous avons besoin pour vivre pour Jésus. Remarquez ce que Pierre et Jean vont dire au verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Entends leurs menaces, Seigneur. Entends leurs menaces. Regarde comment ils nous menacent. Ils veulent nous empêcher d'annoncer ton évangile. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Le mot « serviteur » signifie en grec un esclave consacré. C'est-à-dire quelqu'un qui est entièrement consacré à son maître. Êtes-vous un esclave du Seigneur Jésus-Christ ce matin? Un esclave, c'est quelqu'un qui accomplit parfaitement la volonté de son maître parce que c'est une question de vie et de mort pour lui. La première fois qu'il lui désobéit, heureusement qu'on n'a pas un Dieu comme ça. On a un Dieu qui est gracieux. Mais le mot esclave ici, le mot serviteur, qui sont le même mot en grec, mais ici l'emphase est mise sur l'esclave, eh bien, c'est ce que Pierre et Jean pouvaient dire, « Nous sommes tes serviteurs esclaves. Nous reconnaissons que tu es notre maître, que tu es le seul que nous pouvons servir, que tu es le seul à qui nous devons obéir. Et nous te sommes entièrement soumis. » C'est ce que ça voulait dire quand on disait « serviteur » dans le Nouveau Testament. Et regardez ici. L'assurance n'est pas donnée, frères et sœurs, aux gens qui sont rebelles. Vous n'aurez jamais cette véritable assurance. Vous ne serez jamais sûr de rien, tant et aussi longtemps que vous ne direz pas, « Seigneur, exauce ton serviteur qui marche avec toi. Donne-moi cette audace, donne-moi cette assurance pour parler de toi. » Et lorsque vous agissez ainsi, le Saint-Esprit de Dieu vous donnera le courage dont vous avez besoin. Frères et sœurs, s'il y a un péché non confessé dans votre vie, ou un domaine de votre vie qui n'est pas encore soumis à Dieu, vous n'allez pas avoir cette assurance, il est impossible d'avoir cette assurance, d'avoir cette audace dont nous avons tellement besoin pour parler de ce qui fait notre espérance. Il est écrit, « Le méchant prend la fuite sans que quelqu'un le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Proverbe 28, 1. Le méchant prend la fuite sans que quelqu'un le poursuive, nous dit le texte. Il est toujours en train de se poser la question, est-ce qu'ils savent? Ont-ils entendu parler de quelque chose me concernant? Est-ce qu'on découvrira ce qu'on fait en cachette? Mais lorsque vous vous réveillez, que vous pouvez dire, il n'y a rien entre moi et mon Sauveur Jésus-Christ, je suis son serviteur, je suis son esclave, Jésus est avec moi, Dieu le Père est au-dessus de moi, et le Saint-Esprit habite en moi. Alors vous pouvez lui dire avec confiance, Seigneur, donne-moi de l'assurance. Seigneur, donne-moi l'audace dont j'ai besoin pour ouvrir la bouche et parler de ce qui fait ma joie et ma paix. Pour quelle raison voulait-il avoir de l'assurance, Jean et Pierre? Eh bien, regardez au verset 29. Et frères et sœurs, ça me parle beaucoup parce que souvent, on prie Seigneur et qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on lui demande au Seigneur, vraiment? Qu'est-ce qui passe en priorité dans nos vies? Ce sont des gens ici qui avaient appris à prier. Ce sont des gens qui avaient passé 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient appris à prier dans le sens que ce n'était pas d'abord leurs besoins qu'ils présentaient au Seigneur. Ce n'était pas de leur personne qu'ils parlaient. Mais quand ils priaient, les sujets qui montaient devant le trône de la grâce de Dieu, c'était pour que Dieu puisse se glorifier. Regardez ici. Verset 29. « Pour proclamer ta parole, pour annoncer ta parole avec une pleine assurance, voilà le sujet de leur prière. Pourquoi annoncer ta parole avec une pleine assurance? Pour que tu te glorifies, pour que Jésus soit glorifié. » Pour que le Père se réjouisse avec ses anges dans le ciel et pour que le Saint-Esprit puisse agir avec puissance dans la vie de ceux qui entendent l'Évangile. La Trinité en action. Pierre et Jean ne demandaient pas que Dieu leur permette de vivre en sécurité. Pierre et Jean ne demandaient pas à Dieu de pourvoir à leurs besoins. C'était déjà une promesse qui avait été faite. Mais de proclamer la parole avec assurance, ça ils savaient. Que ce n'était pas naturel de le faire. Et que cela prenait l'aide des 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit. Tout est axé sur la gloire de Dieu. Frère, c'est ça ce qui est encourageant pour nous. Si on n'en est pas rendu là aujourd'hui, on a juste à penser à ce que Pierre était avant de se rendre là. Pierre, celui qui voulait démolir, ouvrir les portes ouvertes. Pierre, c'était celui qui a juré fidélité à Jésus et qui a juré aussi ne jamais avoir connu Jésus. Il l'a renié 3 fois. Malgré le fait que Jésus a dit, « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père », Pierre va devenir un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a repris cette parole? Non. Vous savez ce qui a sauvé Pierre? C'est que Pierre, il s'est repenti. Et frères et sœurs, quand un homme ou une femme se repent sincèrement, Dieu ne peut pas dire non à cette prière. Dieu ne peut pas dire non à cette prière. Parce qu'on ne peut pas demander au Seigneur, on ne peut pas crier à Dieu de se repent si ça ne vient pas du cœur. On peut faire comme Saül, regretter, mais on n'aura pas grand-chose. On finit par être rejeté par Dieu. Mais comme David, dans le psaume 51, si on demande au Seigneur d'avoir pitié de nous, qu'on se repent, comme Pierre le fait, vous lirez dans Marc, eh bien, on peut avoir la certitude que Dieu va nous pardonner. Pierre et Jean ne demandaient pas que Dieu leur permette de vivre en sécurité, ils demandaient qu'on leur donne le courage dont ils avaient besoin pour proclamer la parole. Ils voulaient avoir l'assurance que Dieu agirait à travers eux. Voilà pourquoi dans leur prière, ils vont dire « Seigneur, étends ta main pour que des miracles, des prodiges et des guérisons s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. » En d'autres mots, Seigneur, que tu puisses agir puissamment à travers nous. Vous vous demandez peut-être si Jésus a répondu à leur prière. Chapitre 5, verset 12, pour ceux dans leur Bible. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Dieu répond à leur prière. Le mot « par » ici signifie en fait que Dieu, par Jésus-Christ, agissait à travers eux. Il est important le petit « par » ici. Tout ce que vous faites qui peut être expliqué en dehors de Jésus-Christ, frères et sœurs, tout ce que je peux faire qui ne peut être expliqué, oui, qui peut être expliqué en dehors de Jésus-Christ, eh bien, frères et sœurs, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, c'est par mes propres efforts et c'est par vos propres efforts. Et ici, le mot « par », il est important. Frères et sœurs, ils ont vu des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplir par Jésus-Christ. Et Dieu, encore une fois, en Jésus-Christ, veut accomplir des miracles et des prodiges et des guérisons par ses enfants aujourd'hui. Amen. Sans être charismatique, hein? Je ne parle pas, ce n'est pas réservé aux charismatiques, ça, d'avoir des guérisons, des miracles et des prodiges. Hein? C'est réservé à tous les enfants de Dieu, les baptistes inclus. Hein? Avez-vous la conviction que Dieu va accomplir des choses grandioses à travers vous? Ben oui, hein? Extraordinaire, non? Que voulaient Pierre et Jean maintenant? Ils voulaient avoir le courage pour proclamer la parole de Dieu. Ils voulaient avoir l'assurance que Dieu agirait à travers eux. Et ils voulaient avoir l'assurance que le Fils de Dieu serait glorifié. Verset 30, comment? En étendant sa main pour qu'il fasse ses guérisons, pour qu'il fasse des miracles, pour qu'il fasse des prodiges, et que le nom de son saint serviteur Jésus-Christ soit glorifié. Frères et sœurs, en terminant, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne le courage de proclamer la parole de Dieu. Que Dieu puisse étendre ses mains, que le Seigneur puisse être glorifié. Regardez ce qui est écrit maintenant au verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, nous dit la parole. En d'autres mots, des bénédictions, Dieu inondait les prières, l'action de ses apôtres de grandes bénédictions. Une foule nombreuse venait à la rencontre de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, ça a commencé par une prière de deux bonhommes qui appartenaient à Jésus-Christ, qui ont su s'humilier en confessant qu'ils n'avaient aucune puissance, aucune assurance pour parler aux gens. Et le Seigneur va bénir ces deux personnes. Et je suis convaincu au 21e siècle, en ce début de 21e siècle, que le Seigneur veut aussi nous bénir, que le Seigneur veut aussi nous inonder de riches bénédictions. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter. On est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui va recevoir Jésus-Christ quand on leur proclame l'Évangile. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est de proclamer l'Évangile avec assurance et d'avoir la certitude que Dieu le Fils est présent parce qu'on vit une relation étroite avec lui, qu'on va voir Dieu agir parce que Dieu le Père, on a placé notre confiance en lui et qu'on va le faire avec joie parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui convertit. Frères et sœurs, que le Seigneur ce matin puisse vraiment vous remplir d'assurance. Continuez à œuvrer à travers vous. Et vous rappelez, frères et sœurs, que dans le Seigneur, il n'y a personne qui est disqualifié. que dans le Seigneur, si Dieu a pu, à cette époque, servir des gens qui étaient sans instruction, des gens du peuple, des gens qui avaient probablement qui savaient lire et écrire, c'était à peu près tout, des pêcheurs, des gens qui venaient de différents milieux. À combien plus forte raison, avec l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, combien Dieu, à travers ses promesses, va vous remplir, va vous donner de riches bénédictions. Si vous n'avez pas d'assurance, si vous n'avez pas cette audace aujourd'hui, vous savez, demandez simplement à Dieu. S'il y a un péché quelconque qui vous empêche de goûter à ses bénédictions, d'avoir cette assurance, d'avoir cette audace, confessez votre péché là où vous êtes. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur ne veut pas utiliser juste le pasteur, ni les membres du conseil, ni certains dans l'Église. Dieu veut tous vous utiliser. Parce qu'en Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes tous qualifiés pour proclamer le bon nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, merci.